Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau en direct et en public ce soir depuis Lille et le festival Série Mania. Bonsoir à toutes et à tous qui nous avez rejoints dans le centre-ville de Lille, ici à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Après une annulation en 2020 et deux reports en raison de la crise sanitaire, le rendez-vous des amateurs de séries fait son grand retour avec un programme alléchant, près de 60 séries inédites venues de 21 pays présentées jusqu'à jeudi prochain dans Lille et sa région, mais aussi sur Internet. Ce soir, dans un monde nouveau, on va parler de Jeune Égolerie, une nouvelle série humoristique présentée en compétition officielle avec Agnès Hurstel, qui aborde avec modernité les thèmes de la parentalité, du désir et de l'entrée dans l'âge adulte.
Mais moi, je me suis fait rire.
Tu t'es fait rire. Ça suffit pas, faut faire rire les gens, ce qu'il y a autour.
Bah oui, sinon on fait pas ce métier.
La réalisatrice de Jeune Égolerie, Fanny Sidney, révélée au grand public en tant qu'actrice dans la série 10%, est notre première invitée ce soir sur France Inter. Quête d'identité toujours, mais version plus intime, politique et sexuelle. Les Engagés de Sullivan Le Postec, la troisième saison de la première série LGBT produite par la télévision française, sera présentée ici ce soir en avant-première à Lille.
Depuis plusieurs années, les LGBT de Tchétchénie sont victimes de persécutions dans l'indifférence générale.
Onzor a mis des vidéos sur Internet. On se dit qu'il le considère sûrement comme un opposant politique.
Les Engagés, une web-série qui a bouleversé la représentation de la diversité sur les écrans français. Son créateur et réalisateur de la troisième saison, Sullivan Le Postec, est avec nous ce soir. Et puis nous recevons un membre du jury du festival, l'acteur Thibaut de Montalembert, bien connu lui aussi pour son rôle de l'agent Mathias Barneville dans la série 10%.
Écoute Camille, le cinéma c'est pas un truc qu'on fait comme ça, comme on fait de la danse ou du judo. Avant tout c'est une industrie et c'est un monde de requins. Écoute, si tu aimes vraiment le cinéma, va t'acheter une carte UGC. Ça t'évitera bien des déconvenus.
France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
Des liens familiaux, parfois difficiles, du stand-up, du militantisme. Toutes les séries de demain sont ce soir dans Un monde nouveau sur France Inter.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle. C'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser, mon amour pour toi. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse aux sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies, c'est génial. On le lynche sur la place publique, on piétine le pacte civique. Pas de lunettes spéciales, on les mettra jamais des
Chatterton, les parrains d'un monde nouveau avec Écran Total. Extrait de leur troisième album, toujours brûlant d'actualité, Palais d'Argile, sorti en mars dernier en partenariat avec France Inter.
France Inter. Sonia Chironi. Un monde nouveau.
Toujours en direct de Lille, de la Chambre de commerce et de l'industrie, ce soir sur France Inter dans un monde nouveau pour une émission spéciale consacrée au festival Série Mania. Le grand public l'a découverte dans la série 10%. Elle joue la fille d'un agent de star incarné par Thibaut de Montalembert qui nous a rejoint, qui va nous rejoindre lui aussi dans la discussion dans 10%. Depuis 10%, elle a fait du chemin et réalisé pas une, mais deux séries présentées cette année au festival Série Mania. Bonsoir Fanny Sidney.
Bonsoir Sonia.
Le public, vous connaissez Fanny comme actrice, on vous découvre aujourd'hui réalisatrice. Vous avez toujours voulu faire les deux ?
Oui, c'est une combinaison absolument nécessaire pour moi.
Alors, la première série qui est en compétition officielle dans la catégorie série française, elle s'appelle Jeune et Gaulerie. Alors, Gaulerie, le verlan de rigoler. C'est donc une série humoristique autour de l'univers du stand-up qui est à l'honneur cette année dans le festival Série Mania. C'est l'histoire de Prune, Agnès Hurstel, qu'on connaît bien ici à France Inter. Une jeune stand-upeuse de 25 ans qui tombe amoureuse d'un vieux mâle blanc des années 70, Francis, 47 ans, joué par Jonathan Lambert. Un choc des générations et un choc des cultures propice à de nombreux gags. Mais la situation, Fanny, se complique quand Prune découvre aussi que Francis a une petite fille.
Oui, tout à fait. Et la série est aussi essentiellement un buddy movie autour de cette relation entre Prune et cet enfant et de la question de qui éduque qui.
Ça va être difficile pour elle au début de se confronter à cette jeune fille de 6 ans qui est fan de Napoléon.
Tout à fait.
Ouais. Alors on écoute un extrait de la bande-annonce tout de suite. Jeune et Gaulerie.
Ça commence un peu fort pour vous, monsieur. Pardon. On m'avait tout fait, mais l'enfant caché jamais.
Désolé, hein, je voulais pas que tu la prennes comme ça, mais je peux pas lui présenter n'importe qui.
Est-ce que tu te souviens du gars à qui j'ai roulé une belle grâce à toi au club en juillet? Le mec un peu vieux et dépité. Il s'appelle Francis, il a 47 ans.
47 ans.
Il perd ses cheveux déjà.
Je bande.
S'il te plaît, tu laisses Alma en dehors de tout ça. Hier à l'école, elle a soulevé sa robe pour faire comme la copine de papa.
Non mais Prune sera une super belle mère.
Franchement, qu'elle s'étonne pas demain si en se réveillant elle a plus de sourcils, quoi.
Non, Alma, là, t'as fait une grosse bêtise. Demande pardon à Prune.
Mais elle l'a fait exprès.
C'est un monstre, cette gosse.
Vous êtes pareil, en fait. Vous avez le même âge mental.
T'as vu comme c'est pratique.
Mademoiselle ! Adulte, tu sais ce que c'est ? Donc pas quelqu'un qui fait voler une gosse de 6 ans, qui trouve ça si drôle.
J'ai déjà le titre de mon premier spectacle.
Shining ?
Belle-mère.
Une série EC Signature.
D'accord.
Jeune et Gaulerie, saison 1, sur OCS.
Alors, sous couvert d'humour, Jeune et Gaulerie, Fanny Sidney questionne les problématiques contemporaines, féminines, mais pas seulement, la parentalité, le désir, et le désir ou pas de maternité.
Oui, tout à fait. Et puis la question de l'injonction à la maternité et à la maternité bienveillante. Donc, on s'est beaucoup amusé à ce qu'elle le soit pas tellement. Vous disiez que ça n'évoque pas que ce sujet-là. Ce qui m'a beaucoup touché moi sur le tournage, c'est que beaucoup d'hommes sont venaient nous voir avec Agnès pour dire je me reconnais en Francis.
Ah oui.
Ça me touche cette difficulté, enfin cette volonté d'être un père parfait et de se sentir à côté de ses pompes. Voilà, donc ça c'est aussi. C'est quand même une volonté d'être inclusive.
Et puis ce choc des générations, entre la génération des millennials, donc les amis de Prune qui ont tous 25 ans et qui tournent régulièrement en dérision ce pauvre Francis qui représente les boomers, comme on dit aujourd'hui.
Oui, oui, il y a une triangulation dans la question qu'on soulevait tout à l'heure de qui éduque qui et de renverser aussi cette... cette idée d'un mansplaining et de se reposer les questions de savoir aussi ce que c'est des questions qui sont très contemporaines mais ce que les générations qui arrivent vont à nous apprendre et à apprendre aux anciens.
Alors Prunelle, elle évolue dans l'univers du stand-up et elle va s'inspirer de cette nouvelle vie de belle-mère comme ça qui lui tombe dessus à 25 ans pour nourrir ses apparitions sur scène. On va écouter un extrait.
On m'avait tout fait, mais l'enfant caché jamais. Gars, je sais pas, quand tu démarres une relation, la moindre des choses, c'est de fixer les règles, quoi. On n'est pas obligé d'être exclusif. Moi, la première, je le suis pas. Il y a un moment, si t'es poli amoureux, peut-être, dis-le. Non, peut-être. Tu vois, je débarque chez toi, il y a une meuf en face de moi, en pyjama, à l'aise. Elle a l'air d'avoir sa propre chambre. Et en plus, elle se permet de commenter mon swag. Ah, alors, non, je n'ai pas un look de toxico. J'ai un look pointu.
Agnès Hurstel, qui est très drôle dans cette série Jeune et Gaulerie que vous avez réalisée, Fanny Sidney. Comment vous l'avez rencontrée? Comment vous avez travaillé avec elle?
Agnès, elle avait écrit un épisode de la série, la web-série Loulou pour Arte TV, que j'avais eu la joie de réaliser. On s'est rencontrés déjà dans cette combinaison-là.
Et vous avez envie de, vous avez eu envie de continuer ensemble?
En fait, elle a suggéré mon nom au moment où il cherchait quelqu'un pour réaliser Jeune et Gaulerie.
Vous avez le sentiment de d'être un peu les représentantes d'une nouvelle génération de femmes qui débarquent comme ça dans le monde des séries, de l'humour, du monde nouveau?
Ça me semble être une mission un peu lourde. Ce qui fait sens pour moi, c'est de me dire qu'on crée des récits et des chemins dans nos vies, dans les choix qu'on fait, dans la manière qu'on a de le faire, qui permettent à d'autres de s'autoriser et des jeunes filles. Donc pourquoi pas d'être modélisante avec plaisir.
Mmh. À 34 ans, vous passez donc derrière la caméra pour réaliser ces deux séries, même si vous aviez déjà réalisé, vous en avez parlé des épisodes de la série Loulou en 2017 et puis un premier court-métrage. Mais pourquoi des séries? Est-ce que c'est plus excitant aujourd'hui pour une jeune réalisatrice de se lancer dans des séries plutôt que dans un long-métrage?
Je sais pas pourquoi la série, moi j'ai l'impression que qui peut le plus peut le moins et j'ai eu beaucoup de mal à faire un long métrage, donc je me suis dit j'y vais fort, si j'arrive à faire 280 minutes, j'arriverai bien à en faire 90 et ça m'a complètement libérée de faire de la série. Il y a aussi le fait que c'est une expérience que j'ai traversée avec 10% et donc il y a un vrai plaisir à avoir du temps évidemment pour faire évoluer les personnages.
On va en parler dans 10% de quelques instants avec Thibaut de Montalembert. Vous présentez ici à Lille, Fanny Sidney, une autre série qui s'appelle Brigade Mobile, que vous avez réalisée et dont là vous êtes la co-scénariste. Vous pouvez nous la pitcher?
Oui, Brigade Mobile, c'est deux gendarmes femmes qui sont placardisées dans un camping-car de gendarmerie en milieu rural, donc elles ont un service de proximité, mais elles leur prend l'envie d'aller pister un potentiel serial killer.
On écoute la bande-annonce tout de suite de Brigade Mobile.
Notre Brigade Mobile, c'est un peu comme le DAU.
Attention !
Wow !
La vache !
C'est-à-dire que tout le monde en parle, et personne n'est sûr de l'avoir vraiment vu.
Des bidons d'essence. Le soir du meurtre.
Je crois qu'il séquestre des vierges. Ouvrez immédiatement, gendarmerie nationale.
Oh putain, j'y vais. Le Dahu a quatre pattes un peu en quinconce pour grimper sur la montagne.
J'en peux plus de la BM. T'imagines que ça me fait plaisir de passer toute la journée à cramper dans un camping-car à traiter des petites cases de sion.
Je mange que des pâtes au beurre. Quand t'es pas là, c'est presque comme des pâtes au beurre.
Vous êtes la chef.
Je suis la chef.
La chef de ce camping-car.
Voilà, je crois que je préférais être sur un rond-point un samedi matin plutôt qu'ici.
Brigade Mobile, une mini-série de 7 épisodes de 10 minutes que vous avez réalisé, Fanny Sidney, et écrit pour Arte, qui sera présentée ici à Lille demain soir dans le cadre de la Nuit des Comédies au Nouveau Siècle, dans le cadre de ce festival Sérimania. Vous avez choisi de travailler avec des amateurs, je crois, dans cette série, voire des néophytes. Mmh. Pourquoi ?
Ça faisait... Ah, je sais pourquoi... Parce que j'adore ça. Franchement.
Les amateurs.
Ouais, j'adore ça. J'adore voir éclore du talent et du savoir-faire chez des gens qui l'ont jamais fait. C'est absolument passionnant. C'est très très émouvant. C'est aussi un travail qui demande une délicatesse folle parce que il faut surtout pas abîmer ce qui est donné là et puis cette une forme d'insouciance, c'est des gens qui savent pas ce que c'est des métiers qui sont périlleux d'être acteur, de faire l'acteur. Donc voilà, et donc c'était vraiment inouï. Et y a un épisode où il y a trois petites dames d'Auvergne avec un accent qui chante, qui m'a ravie à tourner et qui demandait justement voilà cette précaution. Et c'est hyper beau de partager ces moments-là.
Parce que c'est une région aussi où vous avez quelques attaches, je crois.
Oui, exactement.
Est-ce que le fait d'être aussi actrice, Fanny Sidney, ça vous rend plus exigeante ou au contraire plus compréhensive avec les acteurs que vous dirigez ?
J'ai une empathie folle pour ce qui se passe chez l'acteur au moment où il tourne, forcément. Donc je suis très, très, très admirative. Vraiment, à chaque fois, j'ai envie de m'agenouiller à terre et de dire mais mon Dieu, mais ce que vous faites quoi. C'est parce que je sais par quoi on passe et je sais comment on peut avoir des limitations aussi et qui n'appartiennent qu'à nous. Et quand il y a une liberté de jeu, c'est inouï. Ensuite, je pense que je suis exigeante. Je suis probablement moins subtile dans mes demandes et plus directe que ce que j'aurais besoin quand un réalisateur me parle. À ce moment-là, c'est ma casquette de réalisatrice qui a besoin de quelque chose.
Brigade Mobile, comme Jeanne Aigolery, c'est une série humoristique, un peu plus dans le domaine du loufoque, de l'humour décalé. Ça veut dire que vous avez envie de creuser ce sillon-là, l'humour, Fanny Sidney ?
Le tragicomique.
Tragicomique ?
Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est le sublime, là. On touche au sublime. Si on arrive à avoir même un acteur qui fait cette performance d'arriver à pleurer et rire ou à nous faire pleurer et rire en même temps, si on arrive à le faire dans une œuvre déjà, c'est déjà je crois qu'on touche à la grâce et puis après carrément en même temps c'est l'idéal.
Vous restez avec nous, Fanny Sidney. Dans un instant, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il est là. Il est assis à côté de vous. Je sais pas depuis combien de temps vous vous êtes pas vu. Vous allez nous dire ça dans un instant. Il a incarné pendant 4 saisons votre père dans la série 10%. Il s'agit de Thibaut de Montalembert, membre du jury ici à Sérimania à Lille. Mais d'abord, Fanny, on va écouter Ma piscine du groupe La Belle Vie, extrait de la bande originale, super bande originale de Jeanne Aigolery.
Chez moi y a une piscine, mais elle est pas pour toi. À moins que je te dessine et que tu sois nu pour moi. Déshabille-toi. Chez moi le soir la nuit tombée, je ne fais que danser. Tu veux me voir et m'enlacer et puis rembobiner la scène. Vas-y danse. Vas-y danse, 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 vas-y danse pour moi. Pour moi. Vas-y danse. Vas-y danse, 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 vas-y danse pour moi. Pour moi. Vas-y danse. Le matin tu te réveilleras, j'aurai filé entre tes doigts. Tu rêvais de me voir encore comme tu m'as vu la première fois. J'ai moins le jour soleil levé, je ne fais que chanter. Tu voudrais bien me rattraper pour enfin rejouer la scène. Vas-y danse. Vas-y danse, 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 vas-y danse pour moi. Pour moi. Vas-y danse. Vas-y danse, 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 vas-y danse pour moi. Pour moi. Vas-y danse.
Enfin arrivé chez moi, personne pour le premier pas. Tu me diras qu'on ne se connaît pas, mais qu'on se croise toujours là-bas.
On ne se connaît pas, mais on se croise toujours.
Et puis tu m'emmèneras au milieu de ma piscine, comme si c'était chez toi. Maintenant la vie sous-marine.
Vas-y danse, vas-y danse pour moi. Pour moi. Vas-y danse. Vas-y danse, 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 vas-y danse pour moi. Pour moi. Vas-y danse.
Piscine du groupe La Belle Vie, extrait de la bande originale de la série Jeune Égolerie, présentée ici à Lille en compétition officielle au festival Sérimania. Nous sommes toujours en direct de Lille, de la Chambre de commerce et de l'industrie, pour parler du festival, toujours avec Fanny Sidney dans 10%. Fanny Sidney joue le rôle de Camille Valentini, la fille de Mathias Barneville, un agent de comédien qui ne s'est jamais vraiment occupé d'elle, que vous incarnez, Thibaut de Montalembert. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints ce soir dans Un Monde Nouveau. Vous êtes membre du jury, compétition internationale du festival Sérimania. J'imagine que vous pouvez donc parler en toute liberté du travail de Fanny, qui est, elle, dans le jury série française. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir là, ce soir, en compétition à Sérimania, en tant que réalisatrice?
Je suis très fier. Je dirais pas que je suis fier comme son père, parce que je suis pas son père.
Mais presque.
Parce que c'est vrai que quand on s'est connus, c'était quand le premier, c'était quoi, il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans, le tout début de 10%.
Ouais.
Tu vois, t'avais quoi, 24, 25 ans, 26 ans, 27 ans.
Enfin, monte.
Voilà. Pas tant que ça. Et c'est vrai que, je me demandais ce que cette jeune fille allait devenir, parce qu'elle était un peu timide comme ça, elle arrivait. Et puis de voir ça exploser, c'est magnifique.
Et vous saviez déjà qu'elle avait des envies de réalisation?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Elle était à la FEMIS.
Elle était à la FEMIS.
On a infiltré sur 10%.
Donc, la FEMIS, la célèbre école de cinéma. Oui.
Voilà. Et je pense que Fanny a la chance d'avoir pu être à la fois aussi... elle a été au cours Florent avant d'aller à la FEMIS. Donc elle a les deux casquettes. Mmh. Il y a peu de gens qui sortent de la FEMIS qui ont ça. Et je pense que ça lui donne justement un rapport avec les acteurs tout à fait particulier, parce qu'elle connaît les choses de l'intérieur.
Pendant 4 saisons, vous avez donc incarné tous les deux un père, Mathias Barneville, et une fille, Camille Valentini. Une relation douloureuse au début, puisque vous, Thibaut de Montalembert, vous incarnez donc ce papa qui ne s'est jamais occupé de sa fille, qui est obnubilé par sa carrière d'agent de comédien, et un jour, elle débarque à Paris.
Et qu'est-ce que tu viens faire à Paris? T'es en vacances?
Ouais, plus ou moins.
Comment ça, plus ou moins?
Ben, en fait, ça fait 3 semaines que je suis là. Pour vivre ici, pour tenter ma chance.
Mais pourquoi? T'étais pas bien à Mandelieu, c'est très beau là-bas. Quand je pense au nombre de gens qui paieraient pour vivre sur la Côte d'Azur.
Ah ouais, c'est marrant, t'as jamais eu envie d'y habiter, toi, pourtant.
Et puis t'avais un bon travail.
Ah bon? Oui, c'était quoi mon travail? J'en ai des sous-vêtements à domicile. Genre réunion Tupperware.
Extrait de 10%, la série à succès, diffusée pendant 4 saisons sur France 2. Elle débarque à Paris bien décidée à se faire une place, cette place que son père ne lui a jamais accordée. La relation, elle va ensuite évoluer, de même que votre personnage, Thibaut de Montalembert, qui va s'adoucir, Mathias Barneville. Au début, c'est quand même le méchant de la troupe, et puis il va s'adoucir, il va s'humaniser au fil des saisons.
Oui, absolument, il va s'humaniser... parce que la vie fait que
Là, c'est sa fille.
Voilà, c'est ça ce qui
c'est tout.
Il y a sa fille, il y a sa femme, il y a sa maîtresse, tout ça est très compliqué à gérer quand même.
Il y a beaucoup de femmes autour de
vous. Beaucoup de femmes. Mm-hmm. Un fils aussi d'ailleurs.
Et vous racontez, alors j'ai lu ça en préparant l'émission, ça m'a fait rire, vous racontez que au début de la série, vous n'êtes pas un personnage très sympathique, les gens vous parlaient pas dans la rue.
Non, c'est ça. C'est comme la série est distribuée par 2 épisodes, voilà. Donc les premiers 2 épisodes, ça marche très bien, tout le monde est très content, on s'appelle, on se congratule, c'est formidable, on m'arrête dans la rue, on me dit bonjour, et moi rien. Bon. Le mercredi d'après, ça recommence, ça monte encore dans l'audience, les gens de plus en plus contents, moi toujours rien. Et alors là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ou je suis très mauvais, ou même
non,
pas du tout.
C'était pas
et
ça.
Puis le troisième mercredi, c'est les 2 épisodes où je commence à me rapprocher de Camille, et là, les gens sont venus. Ils m'ont dit, mais on savait que c'était vous, mais vous étiez tellement imbuvable qu'on voulait absolument pas vous dire bonjour.
La série a été diffusée entre 2015 et 2020, donc sur France 2. Ça a été un énorme carton. Elle dévoile les coulisses du milieu des agents de comédiens, avec à chaque épisode une star qui vient jouer son propre rôle avec une bonne dose d'autodérision. Succès phénoménal en France, mais aussi à l'étranger. Bande annonce.
Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin?
Oui.
Tu peux commencer tout de suite?
Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats.
On en est où de Cécile de France pour le Tarantino?
Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît.
Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération.
Qui est parti, concrètement?
Berléand.
Qui a frappé l'autre?
Berléand.
Julie Gayet et Joey Star ont disparu.
Non mais ils veulent pas juste faire leur métier.
10%, ça a changé votre vie à tous les deux, Fanny?
Bah vas-y.
Pas qu'un peu, ouais.
Ouais, à plein d'égards. Moi, j'ai grandi avec 10%. Et après, très pragmatiquement, être identifié dans ce métier, ça aide un petit peu aussi.
Ouais.
Et vous, Thibault ?
Oui, bah oui, c'est-à-dire, moi, j'ai pas grandi avec 10%, disons que j'ai un peu fleuri avec 10%, voilà. Dans le temps, ça change un peu. Non, mais évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Je suis pas un acteur différent de ce que j'étais avant, mais tout d'un coup, on a rencontré le grand public. Ouais. La France est devenue un village. On peut se dire bonjour. On se connaît un peu. Enfin, voilà. Et puis même le monde, alors c'est formidable.
Et vous pouvez venir voir Thibault de Montalembert. On est à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille, en plein centre de Lille, ce soir en direct sur France Inter. Qu'est-ce qui a tant plu aux téléspectateurs, d'après vous, dans cette série ?
Moi, je pense que c'est le fait que c'est un sujet, c'est traité de manière très universelle. Donc il y a à la fois le plaisir d'être dans les coulisses du glamour et en même temps la question de la vie en entreprise. Et de ce que c'est que d'aimer son travail et d'en souffrir. Et ça, je crois que ça peut être communément partagé. J'ai l'impression.
Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est un métier qu'on connaissait pas du tout. Enfin, le grand public connaissait pas du tout ce que c'était qu'un agent. On savait pas comment ça fonctionnait. D'ailleurs, depuis 10%, les demandes de stage ne cessent d'affluer dans les agences.
Ça a donné des envies, y compris au sein de votre propre famille, si j'ai bien
compris.
Exactement. Thibault de Montalembert, racontez-nous ça.
Mais c'est arrivé en même temps, voilà. Mon fils voulait faire de la production. Je lui ai dit, mais ça serait bien que tu ailles voir dans une agence, faire un stage, voir comment ça se passe de ce côté-là. Il est allé faire une agence chez Adéquat, qui est mon agence. Et il m'a dit, bah voilà, moi je veux faire ça. Et il s'est débrouillé pour le faire. Et voilà, maintenant il est agent.
Et maintenant il est agent. Vous avez le sentiment que le succès de 10% a donné du souffle à la filière de création de séries françaises qui marche très bien, hein. La BBC a parlé récemment de nouvelles vagues des séries françaises.
C'est chic.
Ouais. Bah oui. Bah oui. Vous en êtes la représentante.
Je pense que. Ah ouais. Décidément.
ça va être lourd à porter hein, dans quelques temps, tu vas voir.
Ce que ça permet, c'est aussi de créer des passerelles entre des mondes qui étaient très cloisonnés en France. Le cinéma et la télévision se regardaient un peu de travers.
Ouais, c'est ça.
Et là, ça brasse tout ce monde-là. C'est ça qui est merveilleux.
Je pense qu'on était un peu à la traîne. On est en train de rattraper un peu notre retard. Voilà.
Ouais. Vous avez été pensionnaire à la Comédie-Française, Thibault de Montalembert, et j'ai aussi découvert, en préparant l'émission, que vous étiez la doublure depuis plus de 20 ans de l'acteur britannique Hugh Grant, mesdames et messieurs. Ah oui, ah oui.
Oui, mais c'est pas moi, je vous dis tout de suite.
Et votre dernière apparition dans une série, c'était dans Les Aventures du jeune Voltaire d'Alain Tasma, diffusé en février dernier sur France 2. Vous incarniez le rôle du duc d'Orléans. Rien à voir, on écoute la bande-annonce.
Pour conquérir la gloire, ma plume sera mon fusil.
Je n'ai jamais été autant bouleversé par des vers. Vous m'avez emporté, monsieur.
C'est le plus beau compliment que vous puissiez faire à un auteur, madame.
Ces gens-là ne sont pas de ton monde, François. Faudra bien qu'un jour tu en conviennes.
À qui ai-je l'honneur ?
Voltaire, pour vous servir.
Vous allez encore parler de religion et de politique ? 11 mois à la Bastille ne vous ont pas suffi ?
Je vous croyais, mon ami.
Je le suis, François. Tant que vous resterez à votre place.
Je n'ai pas vaincu la mort pour courber les chines. On n'imposera plus le silence.
Les aventures du jeune Voltaire. Inédit, lundi soir à 21h05 sur France 2.
La série est disponible en avant-première dès maintenant sur salto.fr.
Et puis vous avez enchaîné, Thibault de Montalembert, avec une autre série que l'on découvrira à la rentrée sur France 2. Vous incarnez le rôle principal dans L'Absente, une série dramatique de 8 épisodes de 52 minutes. Les séries, quand on y goûte, ça devient addictif.
quand on y goûte comme spectateur et quand on y goûte comme acteur, oui, absolument. Oui. C'est-à-dire que quand c'est bien, c'est formidable. C'est formidable à faire. C'est formidable à voir, c'est formidable à faire. Parce que, effectivement, c'est une question aussi de temps. Dans le temps, la possibilité de développer un caractère, d'un personnage, de creuser en profondeur. Il y a des questions qu'on aborde aussi dans les séries, des questions de société, des questions de tout ordre, qu'on a plus la possibilité, effectivement, de traiter.
Et de développer.
Et de développer.
Au fil des saisons. C'est la première fois que vous êtes membre d'un jury de festival de séries?
Tout à fait. De séries et de cinéma
et
en général.
Enfin, oui.
Non, tout à fait.
Alors, comment vous abordez ce nouveau rôle?
Ah, mais je trouve ça formidable. D'abord, je suis accompagné. C'est vraiment formidable pour moi. J'ai beaucoup de gratitude qu'on m'ait demandé d'être là. Et je suis avec des gens extraordinaires qui sont Agaï Lévy, par exemple, qui a été le créateur de En Thérapie, le premier En Thérapie.
La série israélienne.
Voilà. Et qui a aussi, là, il vient de réaliser et d'adapter Scène de la vie conjugale de Bergman qui passe en ce moment sur Arte, je crois. Il y a Maurizio Katz qui avait fait 000, une série sur la mafia. Il y a Steven Palace, il y a Zineb Triki qui est dans Le Bureau des légendes, enfin voilà, et Désirée Nosbusch qui a beaucoup tourné aux États-Unis et dans des tas de choses. Du coup, c'est vraiment un niveau assez important. Ce qui est intéressant, c'est d'être avec des showrunners, avec des gens qui ont écrit des séries, qui sont des grandes séries vraiment internationales et qui les réalisent aussi. Visiblement, ça c'est une chose qu'on commence à faire aussi chez nous. Fanny en est l'exemple, mais ça n'a pas été si facile. Ça n'est pas si facile de visiblement pour les producteurs, pour les chaînes, de laisser un créateur de série qui a écrit une série le réaliser.
Eh bien, bon festival à vous, Thibaut de Montalembert. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Un Monde Nouveau sur France Inter. Et merci à vous, Fanny Sidney. Jeune Égolerie, donc cette série que vous avez réalisée. 8 épisodes de 20 minutes qui seront diffusés sur la plateforme OCS le 2 septembre prochain et en compétition, donc ici à Lille. Merci.
Merci beaucoup.
dernier single de Michel en partenariat avec France Inter, un jeune collectif new-yorkais militant contre les discriminations et l'enfermement liés aux origines ou à la couleur de peau. Et nous sommes toujours en direct de Lille ce soir sur France Inter pour le festival Série Mania. On va parler maintenant d'une web-série qui a bouleversé la représentation de la diversité dans le paysage audiovisuel français. Les Engagés, dont la troisième saison est présentée ce soir à Lille en avant-première à partir de 19h30 à l'UGC Ciné Cité de Lille. 3 épisodes de 45 minutes. Il s'agit d'une web-série sur le militantisme dans le milieu LGBT lyonnais. On suit le parcours du jeune Hicham qui est joué par le jeune Mehdi Mescar. Hicham qui a 22 ans au début de la série et qui va fuir sa famille pour partir à la recherche de lui-même. Une quête d'identité intime, sexuelle et politique. Bonsoir Sullivan Le Postec.
Bonsoir.
Vous êtes le créateur de cette série et vous avez réalisé la troisième saison qui va être dévoilée ce soir avant d'être diffusée d'ici la fin de l'année sur France TV/. Les Engagés est souvent décrite comme la première série française qui revendique son identité gay et lesbienne. C'était nécessaire qu'elle existe enfin chez nous, en France?
Oui, alors déjà en fait j'ai co-réalisé cette saison avec William Sama. Oui, c'est important parce qu'en fait... je pense qu'il faut comprendre que quand il y a de plus en plus, et ça a été un des trucs chouettes de 10% dont on a parlé juste avant, d'avoir une héroïne lesbienne. Donc c'est déjà d'avoir des héros, des protagonistes de séries qui font partie des LGBT, ça permet de changer un peu la représentation. Mais aussi ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir une multitude, plusieurs personnages LGBT, parce qu'en n'ayant qu'un seul, on est souvent un peu limité dans le type d'histoire qu'on peut raconter. Donc on a beaucoup raconté comme ça en mettant un personnage d'une série, des histoires de coming out, ce genre de choses. Et le fait de vraiment plonger dans un univers comme ça avec plein de personnages différents, ça permet de représenter une beaucoup plus grande diversité de parcours et d'histoire du coup.
Et votre vœu, c'était de faire une série à la fois communautaire et universelle?
Oui, bien sûr, on avait vraiment toujours eu cette idée-là. On voulait absolument faire une série qui s'adresse à tous. On pensait et j'espère que c'est le cas, que les problématiques qu'on aborde soient effectivement assez universelles et que finalement, notamment en termes d'engagement, de militantisme, qui que ce soit qui est passé par une association, je pense qu'il peut s'y retrouver.
Alors justement, la série se déroule dans le milieu du militantisme LGBTQI+. Vous avez vous-même un passé de militant. Question voilà, évidente, pardon pour la question, mais est-ce que vous êtes inspiré de votre propre histoire pour créer cette série ?
Un peu, la série pour autant est pas autobiographique, mais effectivement elle parle d'un univers que j'ai bien connu et elle s'inspire de sensations, de vécu et de plein de choses. Jamais de manière trop directe, j'ai mis beaucoup de filtres et de fiction, ça me permet de m'amuser et puis aussi un peu de brouiller les cartes des fois. Mais voilà, donc je pense que l'univers est représenté avec beaucoup de sincérité par rapport à ce que j'ai vécu et en même temps il y a aussi une bonne part d'imagination.
Oui, parce que vous racontez aussi les difficultés qui sont liées à la vie de militant, la fatigue, les luttes internes.
Oui, c'est vraiment ça, je crois, qui m'a amené à créer cette série au départ. C'est ce conflit entre le fait que, l'ayant été moi-même, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les militants, ceux qui s'engagent comme ça bénévolement dans des associations, et je pense que c'est absolument nécessaire dans le monde d'aujourd'hui d'avoir ces gens-là qui combattent, et en même temps je sais à quel point c'est une vie impossible, c'est épuisant, on perd tellement d'énergie dans des luttes inutiles, dans des combats internes, dans toute la politique qu'il peut y avoir aussi dans une association. Et du coup, j'avais envie de traiter ce paradoxe, ouais.
Alors, après les deux premières saisons, la saison 3 va donc arriver d'ici la fin de l'année sur France TV/. On écoute la bande-annonce de cette saison 3 qui va être dévoilée ce soir à Lille.
Depuis plusieurs années, les LGBT de Tchétchénie sont victimes de persécutions dans l'indifférence générale.
Onzor a mis des vidéos sur Internet. On se dit qu'il le considère sûrement comme un opposant politique.
Mais c'est quoi le rapport avec nous ?
Je veux que vous veniez ici. Travaillez pour moi. C'est le seul moyen de protéger Onzor et tous les autres.
Vous essayez de me mêler à un truc, je suis pas taillé pour ça.
Marwan est mort. Il s'est passé un truc, il essaie de nous cacher quelque chose. C'est pour ça qu'on a besoin de toi.
Tu peux pas me demander ça.
Mais à qui tu veux que je demande ? T'es mon frère, t'as vécu là-bas !
C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous croyez.
Faut qu'on leur parle à ces gens. La cérémonie politique, ça servira à ça aussi.
On veut juste la justice.
Qu'est-ce que ça va apporter de mêler l'assaut à tout ça ? Ça vaut vraiment le coup de tout perdre ?
Ah mais c'est justement quand on risque de tout perdre qu'on sait que c'est important.
verra bien où ça nous mènera tout ça.
La bande-annonce de la troisième saison de la série Les Engagés qui sera dévoilée ce soir à Lille. Dans cette troisième saison, un nouveau personnage va faire son apparition. Un jeune réfugié tchétchène qui va être accompagné par le centre LGBTQI+. Vous aviez envie d'ouvrir la série aussi à des problématiques plus internationales ?
Oui, c'était. On avait un petit peu commencé à aborder cette histoire de la Tchétchénie dans la deuxième saison. Il y avait une intrigue qui l'abordait un petit peu d'un peu loin. Et quand je me suis lancé dans l'écriture de cette nouvelle saison, c'est vraiment un truc dont j'avais envie, oui, de pouvoir parler de ça. Et puis effectivement, cette élimination systématique des LGBT qui a lieu en Tchétchénie, qui est quand même un truc insensé à notre époque. Donc je me suis rendu compte que finalement beaucoup de gens n'en avaient pas vraiment entendu parler. Quand on est LGBT, on était le plus concerné, on le retient. Et donc du coup, j'avais envie de mettre ça en avant et ce que ça pouvait représenter, le fait que comme ça, toute une communauté LGBT d'un pays doit fuir le pays pour espérer survivre. Ce qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment même en Afghanistan d'ailleurs.
Bien sûr. Quel message aviez-vous envie de communiquer avec cette troisième saison ?
En fait, les engagés, c'est un chemin de l'individuel au collectif, et je pense que c'était un peu l'idée derrière cette troisième saison. Comment est-ce qu'on arrive encore à notre époque très individualiste à fabriquer du collectif, à travailler ensemble, à se réunir, ce qu'on retrouve voilà à plein de niveaux, à la fois autour du personnage d'Anzor, et puis aussi autour du personnage d'Hicham qui va devoir faire la fin de la trajectoire du héros, revenir dans la cité où il a grandi et amener avec lui tout ce bagage militant LGBT. Donc c'était ça, cette question de comment réussir à refaire du collectif.
Et on retrouve donc toujours cette dimension communautaire et universelle.
J'espère, oui.
Est-ce que ça a été difficile de la créer, cette série, au départ, de la faire exister, de trouver les financements pour qu'elle puisse exister ?
Oui, ça a été un long chemin. Il s'est passé 5 ans entre le moment où moi je l'ai écrit et le moment où elle s'est vendue. Et puis après, c'est effectivement pas un projet facile à faire exister, c'est pas un projet facile à faire financer, et j'ai eu la chance d'être accompagné par des producteurs, Sophie Deloche, Baptiste Rinaldi, Astarte et compagnie, qui ont beaucoup travaillé pour pouvoir réunir le budget, rassembler l'argent. C'est pas du tout un projet facile à financer, non.
Et est-ce que vous avez eu le sentiment ces derniers mois ou ces dernières années que les choses étaient en train de changer?
Oui, le regard est quand même différent. En fait, c'est quelque chose, vous savez, la productrice Sophie Deloche, elle a produit Tout contre Léo, qui était un des premiers téléfilms de Christophe Honoré. Et en fait, donc il y a quelques années déjà, il y a plus de 10 ans, je crois. Et à l'époque, elle avait bien senti que le côté LGBT était un peu un poids à porter pour rencontrer le grand public. Mmh. Et elle a vu que ça avait vraiment changé avec Les Engagés, qu'aujourd'hui, au contraire, c'est quelque chose qu'on est prêt à écouter, à entendre. Et le grand public, je pense, est plus prêt à s'intéresser, à découvrir ces aspects-là, ces vies-là qu'il connaît pas forcément bien.
Récemment, on a vu des séries comme Pose ou comme Sense8, des séries LGBT américaines qui sont devenues vraiment populaires et qui ne s'adressent plus seulement à cette communauté. Ça vous paraît être aussi une évolution majeure ?
Oui, bien sûr. Ou It's a Sin cette année en Grande-Bretagne, qui a été un des plus gros succès jamais enregistré par sa chaîne, alors que c'est une série sur la communauté LGBT et l'arrivée du sida dans les années 80. Donc oui, je pense que c'est aussi la conséquence d'un long chemin. C'est-à-dire que ce sont des pays où les premières séries LGBT datent d'il y a 20 ans, alors que malheureusement, nous, on était la première il y a 3 ans. Et du coup, c'est aussi ça. Enfin voilà, en exposant ces choses-là, on peut comprendre leur dimension universelle et elles peuvent devenir grand public.
Et on a encore du chemin à faire ici en France avant qu'une série comme Sense8 puisse exister.
J'en ai un peu peur, et en même temps, j'espère que je serai démenti rapidement.
Dans la saison 2, vous abordiez aussi la question de la transidentité, une question très peu traitée jusqu'à présent dans la fiction, dans l'audiovisuel en général.
Ouais, c'était vraiment quelque chose d'intéressant de travailler ça effectivement sur cette saison, de permettre aussi à des comédiens concernés d'éclore, de trouver des rôles, ce qui est de plus en plus le cas maintenant. Donc on voit toute une génération de comédiens. Vous savez, en fait, quand j'ai rencontré Adriane de la Vega qui joue le personnage d'Elijah, en fait, il m'a confié que quand il était adolescent, il avait cette envie-là derrière de la tête de devenir acteur. Et puis un jour, il a enterré cette idée parce qu'il s'est dit, ben non, puisque je suis une personne transgenre, cette carrière, je pourrais pas la faire. Et du coup, que ça puisse changer, c'est vraiment un truc très positif, ouais.
Finalement, c'est une série sur l'altérité, la découverte de l'autre.
Oui, exactement. C'est ça, de voir comment, toutes nos singularités et nos différences peuvent justement s'additionner pour fabriquer du combat collectif pour le bien général.
Vous connaissez bien les séries, Sullivan, puisque vous avez été journaliste spécialisé dans ce domaine il y a quelque temps. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, là, ce soir, à Lille, en tant que réalisateur, pour présenter une série à Sériemania?
Bah, c'est vraiment chouette. C'est vrai que du coup, je l'ai effectivement fait en tant que journaliste les premières éditions de ce festival qui était à Paris à l'époque. Donc oui, c'était vachement, c'était un vrai honneur d'être sélectionné pour ce festival et c'est une chouette expérience.
Et la projection ce soir sera sans doute un moment encore très fort. Donc cette série, cette troisième saison de la série Désengagés qui sera projetée ce soir à Lille et qui arrivera avant la fin de l'année sur France TV / Merci beaucoup Sullivan Le Postec d'avoir été l'invité du Monde Nouveau ce soir. Et merci au Festival Sériemania et à sa directrice Laurence Herzberg de nous avoir accueillis en direct et en public ce soir à Lille. Merci à toute l'équipe avec qui j'ai eu l'immense bonheur de travailler cet été pour cette très belle émission. Gaëtan Colli à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission, sans oublier bien sûr les indispensables Lily Cornillac et Anaïs Dinarc. Merci à Valentine Guédiguian, à Éric Gérard, à la technique ce soir Nicolas Mathias, Martin Troadec et Tanguy Le Corneau. La semaine prochaine, vous retrouvez le 18-20 avec Fabienne Synthèse du lundi au jeudi et Claire Servageant le vendredi. Et tout de suite après le journal de 19h, vous avez rendez-vous avec Le Téléphone Sonne, présenté par Éric Delvaux, consacré ce soir aux nouvelles pratiques du naturisme.